BFM Business. L'émission qui vous sort de votre boîte. Happy Boulot, le mag. Erwan Morris.
Bonjour à tous, on se retrouve dans l'émission qui veut vous rendre plus heureux au travail. Aujourd'hui, le grand entretien avec la DRH de Noroto qui recrute 1000 personnes cette année dans un secteur qui est malgré tout toujours en tension et qui cherche à faire en sorte qu'ils restent aussi dans l'entreprise. Bah oui, c'est l'enjeu, trouver des candidats, mais les garder. Nous verrons comment. Vous profitez aussi peut-être de l'été pour trouver votre raison d'être, remettre votre vie professionnelle en question, revoir votre plan de carrière. Les mois de juillet et d'août peuvent être la période propice à ce genre de réflexion. On va en parler avec Jean Delimé, coach et fondateur de Marpa Accompagnement, et Jean-Baptiste Barfetti, fondateur de Projet Sens. Et puis en fin d'émission, dans notre labo RH, nous testons le télétravail depuis l'étranger avec cette start-up Holy Working. Nous serons avec sa directrice Céline Préfol. Voilà le programme, c'est parti tout de suite avec l'entretien de la semaine.
BFM Business, Happy Boulot, le mag. L'entretien DRH.
Et c'est une industrie qui recrute et qui pourtant a parfois du mal à trouver des candidats. On parle du secteur automobile aujourd'hui avec notre invité. Bonjour Camille Delsalle.
Bonjour.
Merci d'être sur BFM Business. Vous êtes la DRH de Noroto. Noroto en quelques chiffres, donc c'est un groupe de 7000 collaborateurs qui ne s'arrête pas de recruter puisque vous cherchez encore 1000 personnes cette année. Alors on est à peu près à la moitié de l'année. On en est à combien? Vous cherchez combien de profils encore?
Alors là, on est en pleine période estivale, donc on recrute près de 600 saisonniers à l'approche des départs en vacances. Donc c'est une période qui est effectivement très forte chez nous en termes de recrutement saisonnier notamment.
Sur quel poste?
Alors sur des postes de monteurs, de mécaniciens, on recrute en permanence, que ça soit côté vente ou côté atelier. On est sur des recherches assez récurrentes et fréquentes de postes sur l'ensemble de nos centres.
Il y a un besoin plus important aujourd'hui dans les métiers saisonniers que d'habitude ou pas? Parce qu'on a reçu des patrons dans l'hôtellerie, la restauration sur ce plateau où c'est particulièrement compliqué cette année. Est-ce que pour le secteur automobile, la réparation, c'est constant ou pareil, c'est plus compliqué cette année?
On est vraiment, nous, sur une saison et du coup, cette période-là, elle est récurrente et ça n'est pas plus cette année que les années précédentes. Le nombre de recrutements saisonniers est équivalent d'une année sur l'autre parce que pour les départs en vacances, il faut aller réparer son véhicule et se mettre en sécurité.
On doit faire les révisions souvent avant de parcourir la France quand on la traverse du nord au sud pour rechercher le soleil. Quoique cette année, peut-être on va moins le rechercher vu les températures caniculaires qu'on risque de connaître. Des métiers donc nécessaires pour faire tourner votre industrie, pour que les automobilistes puissent aussi ne pas attendre des semaines avant de pouvoir passer au garage. Il y a les profils que vous recherchez ou c'est compliqué de trouver les personnes qualifiées pour les postes?
Alors aujourd'hui, on est clairement sur un secteur qui est en tension. On pâtit peut-être d'une image de pénibilité au travail. Donc il est vrai que c'est un marché qui est particulièrement en tension en termes de recrutement. C'est la raison pour laquelle on va plutôt s'attacher, nous, sur le savoir-être des candidats. Et on va aller du coup actionner des leviers de recrutement plutôt innovants pour aller capter de nouveaux candidats et aller davantage s'attacher sur le savoir-être, puisque nous avons en interne un institut de formation qui nous permet d'amener les collaborateurs sur la montée en compétences.
Ça veut dire qu'avec la pénurie de profils, de compétences, bon, vous formez en interne, donc ça c'est quand même un plus pour ceux qui se disent « ce métier peut m'intéresser, je n'ai pas les qualités recherchées, mais je vais être formé en interne ». C'est quoi le savoir-être, enfin les soft skills en fait, hein, c'est ça. Sur quels critères aujourd'hui vos équipes de ressources humaines, elles sélectionnent ces candidats?
Alors on va être vraiment sur des personnes qui ont la notion de l'enthousiasme, c'est une valeur extrêmement forte chez nous. La notion de partage également, le partage des connaissances, ça fait partie de nos valeurs d'entreprise et on va vraiment aller recruter des candidats qui ont ces qualités-là. On est vraiment sur plutôt les soft skills comme vous le dites.
Mais alors ça, on l'identifie comment lors d'un entretien d'embauche, on peut vraiment déceler ces compétences-là?
Alors, tout d'abord, au niveau de méthode de recrutement, on a le recrutement sans CV qui permet effectivement d'aller au-delà des notions de savoir-faire, vraiment aller chercher du savoir-être. Mmh. On va aller recruter par d'autres méthodes telles que le stade vers l'emploi, qui permet plutôt d'aller identifier au travers de collectifs et de matinées sportives un peu le savoir-être des collaborateurs.
Ça, c'est avant le recrutement ou c'est dans la phase
non,
de recrutement?
Non, ça, c'est avant le recrutement.
Ah oui,
et lors de le recrutement, c'est au travers des expériences et de la manière dont on va effectivement mettre en avant les expériences du collaborateur. Donc, on est vraiment sur cette notion de savoir-être. Mmh. Et on a aussi d'autres leviers. On a mis en place un concours, le concours du Mécamaster, qui est un concours du meilleur mécanicien de France. L'année dernière, qu'on avait tourné à l'extérieur de l'entreprise avec des candidats et n'importe quelle personne qui était passionnée de l'automobile pouvait passer le test et avec une finale au niveau du siège social. Cette année, on l'a tourné vers les alternants, de manière à aussi attirer les alternants pour faire tomber peut-être les préjugés qu'on peut avoir sur le monde de l'auto et sur l'entreprise plus globalement. Ça nous permet vraiment d'aller attirer des collaborateurs potentiels en démontrant aussi tout ce qu'on peut offrir à nos collaborateurs au niveau du bien-être notamment et de ce qu'on peut proposer.
Ouais, vous comptez aussi justement beaucoup sur ces alternants, sur ces jeunes, ces étudiants pour prendre la relève et rester sur ces postes, parce qu'on n'a pas parlé du turnover, mais il est aussi, j'imagine, important. C'est difficile de garder les talents.
Alors, effectivement, on a une problématique de turnover. Donc, la fidélisation est vraiment fondamentale chez nous. On met en place un certain nombre d'actions. Notamment, depuis le Covid, c'est vrai qu'on a un vrai bouleversement au niveau du monde du travail. Donc, on doit venir proposer des choses innovantes, telles que, pour favoriser un meilleur équilibre vie privée, vie professionnelle, la semaine de 4 jours, notamment. Oui. On est en train de tester dans certains de nos centres, dans une dizaine de centres, notamment Colmar. Et on va finalement les répercussions de cette proposition assez innovante qu'on peut proposer en termes d'organisation du travail de manière à fidéliser, parce qu'on sait que bien évidemment ça tient à cœur des collaborateurs.
Il faut retrouver de l'attractivité en fait. Hein, aujourd'hui, les nouvelles moyens de convaincre de rejoindre une entreprise. Donc vous, c'est tout votre défi en tant que DRH. Ouais. Est-ce que vous arrivez aussi à dire à ces nouveaux profils que votre industrie, ce sont des métiers d'avenir? Il y a aujourd'hui le développement dans la mobilité électrique. J'imagine que vous êtes aussi très présent là-dedans. Il faut aussi faire comprendre ça.
Alors, effectivement, dans les manières d'attirer les collaborateurs, il y a plusieurs choses. Il y a les femmes aussi qu'on souhaite attirer. Oui. Donc ça, c'est des enjeux qui sont extrêmement forts chez nous, puisque nous avons 20% de femmes aujourd'hui. Mmh. Et donc, on tend vers la féminisation.
Dans un secteur comme l'automobile, d'arriver à la parité.
On démontre aussi, on donne la parole à des collaboratrices pour faire parler nos métiers. On s'adresse aussi aux seniors, donc en participant à des forums de l'emploi. Et sur l'électrique, nous avons mis en place une école des électrotechniciens depuis le mois de janvier. On a formé 40 collaborateurs parce que ce sont des métiers à venir, parce qu'il est important pour nous de prendre le virage de l'électronique vers l'électrique aussi. Mmh. Et donc, c'est la raison pour laquelle on a mis en place cette école qui vise justement à attirer pour démontrer que nous sommes en train de prendre le virage sur ces métiers d'avenir, puisque nous n'avons pas d'autre choix que de nous orienter vers l'électrique demain.
Merci beaucoup pour ce témoignage. Camille Delsal, DRH de Noroto, avec nous dans Happy Boulot.
Merci.
BFM Business, Happy Boulot, le mag. Le sujet sur la table.
Bon, vous avez beaucoup entendu parler cette année de raison d'être dans les entreprises, mais vous, en tant que salarié, en tant que manager, en tant que chef d'entreprise, est-ce que vous avez pris le temps de réfléchir à votre raison d'être, à vous? Est-ce que vous vous sentez épanoui? Est-ce que vous vous sentez utile à votre place au travail? Le mois de juillet et le mois d'août sont la période où, hormis dans l'industrie touristique, c'est vrai que l'économie en France tourne quand même globalement au ralenti, on prend le large, on part en vacances, c'est peut-être le bon moment justement pour se poser ces questions-là. On en parle aujourd'hui avec nos deux invités. À ma gauche, Jean-Baptiste Barfetti, fondateur de Projet Sens. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue. Et avec nous également, Jean Delimé. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes coach et fondateur de la société d'accompagnement Marpa. Je vais peut-être commencer avec vous, Jean, parce que la raison d'être, c'est un grand mot qu'on utilise beaucoup aujourd'hui, peut-être un peu à toutes les sauces. Vous allez peut-être pouvoir nous dire ça. Mais derrière, il y a quand même des choses concrètes. Parce qu'au niveau individuel, la raison d'être, c'est pourquoi je me lève le matin. Est-ce que je suis bien dans mon travail? Est-ce que j'ai un bon équilibre entre
ma vie professionnelle, ma vie personnelle. Enfin, c'est ça la raison d'être d'un salarié.
Tout à fait. Il y a un ensemble de choses. Il y a, on en discutait un peu avant l'émission, mais il y a ce qui probablement est du domaine du faire, du métier au fond. Bah, est-ce que j'aime mon métier ? Est-ce que j'aime ce que je fais ? Et puis il y a du domaine de l'être au fond et de l'être ensemble. Et donc je crois que ce qui peut être intéressant de se poser comme question, c'est au fond bah, les relations que j'ai aujourd'hui dans mon quotidien, est-ce qu'elles me satisfassent, est-ce qu'elles me satisfont, est-ce qu'elles voilà.
Me satisfont. Exactement. C'est bien ça.
C'est bien ça. J'y suis.
Jean, vous êtes vous-même en créant votre entreprise d'accompagnement, vous avez trouvé votre raison d'être, c'est ça ? Vous avez dit à un moment donné, je sais pas quelle était votre vie d'avant, mais je vais stopper cette vie-là, cette vie professionnelle pour me sentir plus utile peut-être.
Tout à fait. Je crois qu'il y a eu un mouvement. Moi, j'ai travaillé dans les grandes entreprises, des petites entreprises, dans des start-up. Et je me suis toujours posé la question de, au fond, est-ce que je suis à ma place ? Est-ce que j'aime ce que je fais au quotidien ? Et est-ce que j'ai des relations qui, moi, m'enrichissent ? Voilà. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte dans les entreprises qu'il pouvait y avoir des blocages, des moments où je me sentais pas à ma place. Et au fur et à mesure, ça m'a beaucoup questionné. Je me suis beaucoup passionné pour ces sujets-là. Avec du coup la question de qu'est-ce que c'est qu'être ensemble quoi. Ouais. Voilà.
Ça part de quoi souvent ? C'est un mal-être qui fait qu'on s'interroge sur sa raison d'être, on remet un peu à plat tout ça ?
Il y a effectivement un certain nombre de frustrations qu'il peut avoir, où on vit des tensions au travail, on n'est pas à sa place, on se lève le matin, on n'a pas forcément envie d'y aller. Voilà, il y a un ensemble d'indices. Il peut y avoir des indices aussi corporellement, une fatigue, enfin voilà, beaucoup de choses. On parle beaucoup du burn-out en ce moment, mais voilà, être à l'écoute un peu de ces indices, de dire, est-ce que je vis ce que j'ai envie de vivre ?
Et est-ce qu'il faut passer par une phase justement où ça ne va pas pour pouvoir faire émerger ce qui a du sens pour nous ?
Généralement, quand ça va très bien, on ne se pose pas forcément des questions. C'est sûr. Du coup, le point, c'est de prendre ce temps. Voilà, au moment où on sent des tensions et de s'arrêter, prendre du recul quand on peut.
Jean-Baptiste Barfetti, vous avez mené une enquête avec une dizaine d'entreprises. Je rappelle que vous êtes le fondateur de Projet Sens. Une dizaine d'entreprises qui ont voulu enquêter sur les nouvelles aspirations des salariés avec l'association Projet Sens. On fait le point avec Jeanne Spicarolen. D'abord, Jeanne, qu'est-ce qui ressort de cette enquête ?
Les salariés veulent un métier qui a du sens, sans quoi ils démissionneront. 43% des actifs interrogés envisagent de quitter leur travail d'ici à 2 ans pour cette raison. Et puis, il y a de plus en plus de désintérêt pour sa formation, pour sa profession. Plus d'un actif sur deux considère son travail comme une contrainte. Et presque 30% d'entre eux ne perçoivent pas le sens et l'utilité de leur emploi. Et pourtant, le sens, c'est exactement ce que les salariés attendent de leur entreprise pour 90% d'entre eux. Mais pourtant, beaucoup de dirigeants n'ont pas la même vision, puisque 85% d'entre eux n'envisagent pas de s'y mettre, soit parce que ce n'est pas important pour eux, ou parce qu'ils considèrent déjà faire le nécessaire pour leur employé.
Merci beaucoup, Jeanne Spicarolen. Allez, on va plus loin avec notre invité, Jean-Baptiste Barfetti. Je rappelle que vous êtes le fondateur de l'association Projet Sens. C'est vous qui avez mené cette enquête avec une dizaine d'entreprises qui regroupent 1 million de salariés. C'était quoi son but initial ?
C'est bien de bien comprendre cette quête de sens au travail, d'où ce rapport avec ces 10 entreprises, et ensuite de faire bouger les choses dans ces entreprises et dans toute économie. Dans le début de la présentation, vous avez fait le parallèle avec la raison d'être des entreprises. J'ai participé aux travaux avec Nico Nota et Jean-Dominique Sénard qui ont donné lieu à WAPACT sur la raison d'être des entreprises. Et on a suivi exactement le même cheminement que vous. Quand on présentait notre rapport aux salariés, beaucoup nous disaient être fiers d'être dans une entreprise à mission ou avec une raison d'être, mais qui ne voyaient pas les changements concrets dans leur quotidien au travail, et d'où, 5 ans après, cette étude et les chiffres que vous nous avez montrés.
Ça veut dire que les entreprises, une fois qu'elles ont pris conscience de ça, que vous leur mettez les données sous le nez, elles sont capables de s'adapter, de réagir ?
Il y a à prendre conscience déjà, à s'intéresser, et les chiffres que vous avez montrés à la fin, 90% des salariés qui font cette demande, mais finalement seulement 14% des dirigeants qui sont prêts à s'y mettre. Donc on a dit chiche, on veut réunir ce top 14 et travailler avec ces entreprises. Donc sur le sens au travail, la définition qu'on a posée, c'est pour aller vite, c'est l'inverse de se sentir comme un rouage dans l'entreprise. Et on détaille dans le rapport
un numéro.
Voilà, un parmi d'autres, dans une grosse machine. Et 3 leviers qu'on a détaillés, c'est la finalité du travail, le contenu du travail et le management.
Il faut remettre aussi du cas par cas, Jean de Limay, quand on dirige une entreprise, parce que vous accompagnez aussi des chefs d'entreprise.
Tout à fait, des dirigeants.
Il faut, en tout cas, ça va être peut-être le métier plus des ressources humaines, mais ne pas considérer les salariés comme des matricules, quoi.
Ça, c'est certain, effectivement. Mmh. Il y a à remettre au centre l'humain et son aspiration profonde. Chaque personne qui fait partie d'une entreprise, au fond, a pu perdre le fil. Elle arrive avec une flamme, une envie de faire quelque chose, et puis par le système, elle peut perdre ce fil-là. Et comment on permet de lui retrouver ce fil?
Voilà, et les chefs d'entreprise sont capables d'adapter, de s'adapter eux-mêmes pour justement répondre à ces problèmes-là?
Alors, ceux que j'accompagne, oui.
Parce que vous les accompagnez, c'est-à-dire vous leur faites prendre conscience de ce qui ne va pas?
En fait, dans chaque dirigeant, il y a un rêve. Il rêve de vivre quelque chose avec son équipe dans son entreprise. Souvent, il a un peu perdu le fil du rêve. Et donc, moi, mon travail, c'est de lui permettre d'accoucher de ce rêve et de le rendre réel. Et donc, de présenter, au fond, aux salariés avec qui il travaille, quel type de relation il a envie de vivre, quelle aventure. Et au fond, moi, quand j'accompagne, il y a une aventure entrepreneuriale, on va dire business, et puis il y a une aventure humaine qui est propre à chaque dirigeant. Et donc, au fond, l'idée, c'est de permettre à chaque dirigeant de pouvoir accoucher de cette aspiration, de ce rêve.
C'est vrai que quand on est salarié, on a peu de temps aussi pour réfléchir à tout ça dans l'année. L'été, c'est peut-être la période où on prend un peu de recul sur aussi sa vie professionnelle. Pas toujours, hein. Des fois, on continue aussi à travailler au mois de juillet, au mois d'août, bien sûr. Pour les chefs d'entreprise, est-ce que c'est pareil? Ou est-ce que le chef d'entreprise, il a encore plus de mal à prendre du recul? Parce que justement, l'entreprise, c'est son bébé et il s'arrête jamais.
Ça, c'est effectivement un des risques. Je crois que ce que j'offre beaucoup à mes clients, c'est des moments de respiration. Et au fond, du coup, il y a la roue qui tourne et juste on s'arrête, on prend le temps de respirer, de se poser, de réfléchir, de prendre du recul.
On fait comment? On fait une retraite spirituelle?
Alors, il y a plein de formes différentes. Effectivement, ça peut être une marche dans la nature, ça peut être effectivement une retraite spirituelle, pourquoi pas. Ça dépend un peu de l'appétence de chacun. Mais juste, moi, ce que je peux offrir, c'est de mettre des salariés dans un lieu. Et du coup, de pouvoir accompagner ça. Et donc, on arrête les portables et on se met à l'écoute un peu de ces aspirations profondes. Et on se met à l'écoute aussi peut-être des tensions qu'on peut vivre dans l'entreprise.
Mais ça produit des résultats ?
Ah oui. Ça fait c'est assez direct. C'est-à-dire qu'au fond, chacun dans l'entreprise a quelque chose qu'il a envie de dire et qu'il n'a pas pu dire. Et donc là, on se met ensemble et on se dit les choses qu'on n'a pas pu se dire. Parce qu'on est pris un peu dans une forme de frénésie. Et à ce moment-là, on sait que dans une entreprise, par exemple, quand il y a deux personnes qui n'arrivent pas à se parler, tout simplement, c'est un problème. On sait que dans une entreprise, par exemple, quand il y a quelqu'un qui est depuis 5-10 ans dans l'entreprise, mais qui n'est pas content d'être là, ça crée un problème. Voilà. Et on sait aussi que une personne qu'on va embaucher, mais qui va rester que 6 mois dans l'entreprise, c'est aussi beaucoup de coûts cachés. Donc voilà, moi je travaille beaucoup sur ces dimensions de coûts cachés.
Du côté des salariés, Jean-Baptiste Barfetti peut-être, est-ce qu'on sait quand il y a le plus de démissions? Quand est-ce qu'on se dit, maintenant stop, j'en ai marre, je passe à autre chose, je change d'employeur ou je me mets à mon compte aussi? On voit qu'il y a de plus en plus d'auto-entrepreneurs. C'est l'été où on prend ce recul et on change de vie ou pas? Enfin, est-ce qu'on...
Oh, ça peut être tout un tas d'éléments déclencheurs. Il y en a un qui m'a frappé, c'est celui autour de l'enfance. Le fait d'avoir un jeune enfant et de se dire finalement dans quel monde il va vivre, ouais. Est-ce que je contribue à le rendre meilleur et puis tout simplement est-ce que je serais capable de lui expliquer à quoi je sers. Et on a cette citation géniale dans le rapport d'un salarié dans la finance qui dit « Allez expliquer la gestion d'actifs à votre enfant de 9 ans qui a un copain dont le papa est pompier ». Et donc ça, c'est le début de notre réflexion sur la finalité, où on peut avoir beaucoup de choses autour du bien-être, mais si on n'a pas l'impression de contribuer à quelque chose de supérieur qui nous réunit et qui contribue à ce monde, on ne s'y retrouve plus.
Mais alors, Jean de Limay, qu'est-ce que vous dites aux gestionnaires d'actifs que vous accompagnez peut-être?
Alors, j'accompagne pas encore de gestionnaires d'actifs, non. Mais je suis assez ouvert.
Mais qu'est-ce que vous leur diriez?
Ce que disait Jean-Baptiste, moi, ça me parle beaucoup parce qu'on en parle avant le début de l'émission. Moi, j'ai une petite fille de 5 ans et c'est vrai que se mettre à hauteur de ces questions, c'est vrai que ça ouvre la perspective. Et donc, moi, j'accompagne des dirigeants qui ont souvent mon âge. Et c'est vrai que les questions de leurs enfants et ce qu'ils vivent avec leurs enfants, ça leur permet aussi de se réancrer, en fait. Mm-hmm. Et du coup, ça, c'est vraiment effectivement une porte d'accès. Donc, je conseillerais à tout le monde d'avoir un enfant pendant l'été, éventuellement. Voilà, okay. Ça peut être une façon de le faire. Mais c'est vrai que ça ouvre, ça, vraiment beaucoup.
Mm. On va redonner un chiffre dans votre enquête Projet Sens que vous avez menée cette année. Plus de un actif sur deux considère que le travail est une contrainte. C'est-à-dire qu'il y a encore beaucoup de choses à mettre en œuvre du côté des employeurs.
Ça s'est même aggravé. On était aggravé, juste avant la moitié au début des années 2000, on a basculé à plus de la moitié. Mmh. Un des éléments forts, c'est le contenu du travail, et notamment une sorte de raz-de-marée de process, de reporting. On parle beaucoup d'intelligence artificielle, qui est une sorte d'humanisation des machines. Pendant ce temps-là, les salariés ont l'impression que eux, on les robotise, puisqu'on automatise même sur des travaux en col blanc. Ce travail, on a des citations de salariés qui nous disent « Je passe plus de temps à me justifier de ce que je fais plutôt que de faire. »
Bon, un conseil pour terminer, pour conclure sur les semaines qui arrivent, ou peut-être on va prendre du recul sur sa vie, sur son quotidien, sa routine.
Je crois que l'important, c'est pas de se mettre une pression supplémentaire sur il faudrait que je trouve mon aspiration, ma raison d'être, mais juste trouver des moments de respiration pour sentir en fait ce qui est juste pour soi.
Jean-Baptiste.
Eh bien, téléchargez le rapport Projet Sens sur projetsens.fr.
À lire sur la plage.
Voilà, où il y a tous ces éléments de réflexion pour cette réflexion sur le sens au travail.
Très bien, c'est noté. Merci beaucoup à vous deux, Jean-Baptiste Barfetti, fondateur de Projet Sens, Jean Delimé, coach fondateur de la société d'accompagnement Marpa, d'avoir été avec nous dans cette dernière émission de l'année. Très bon été.
BFM Business, Happy Boulot, le mag. Le Labo RH.
Bon, si vous n'êtes jamais passé à l'action, il n'en reste pas moins que vous avez sûrement déjà été tenté de télétravailler en voyage à l'étranger. Certains l'ont fait après le Covid, avec ou sans l'accord de leur employeur. D'ailleurs, ça a parfois été source de problèmes. Pas toujours une bonne idée, puisque ça peut se retourner contre vous, d'ailleurs, si vous en prenez la décision tout seul. On vous le déconseille. Eh bien, une solution existe pour faire tout ça en toute légalité vis-à-vis de votre employeur. Bonjour Céline Préfol.
Bonjour.
Merci d'être là. Vous êtes la directrice des opérations de Holy Working.
Oui, tout à fait.
Donc cette solution, eh bien c'est celle-là, Holy Working, une start-up nantaise qui permet de télétravailler partout dans le monde. C'est la promesse.
Exactement, Holy Working va permettre à des salariés français de pouvoir télétravailler aux quatre coins du monde, et ce sans risque en fait pour le salarié et pour l'employeur.
Comment ça marche ?
Alors Holy Working va prendre en charge en fait la conformité juridique dans la relation employé-employeur, va prendre en charge aussi la conformité légale en France et dans le pays d'accueil.
Oui, parce que j'imagine que c'est à chaque fois pas la même loi en fonction de si on va au Cameroun ou si on va.
Exactement. Il faut s'adapter à chaque loi qui existe dans le pays d'accueil. Mmh. Et puis, on va aussi s'occuper de la conformité sur un plan des assurances, santé et prévoyance pour que le salarié reste couvert pendant sa période de mobilité internationale.
Donc, vous, avec Holy Working, ce que vous apportez, c'est justement tout ce que l'employeur n'est pas en mesure de faire parce qu'il n'a pas soit les compétences, soit le temps, soit les services.
Exactement. Donc, en fait, on va s'occuper de tout ce volet contractuel pour sécuriser cette période de télétravail à l'international. Et puis, on va proposer aussi un autre accompagnement, en fait, pour le salarié. Mmh. C'est-à-dire, on va l'aider à construire son projet. On va l'aider dans ses démarches administratives pour organiser son départ, notamment l'obtention du visa. Et puis, la grande force de Holy Working, c'est de pouvoir permettre à ce salarié de vivre vraiment une expérience immersive à destination. On va lui mettre un espace de coworking à disposition pour qu'il puisse continuer à travailler dans
les
meilleures conditions.
Parce que c'est des séjours longs, on ne parle pas de partir une ou deux semaines.
Non,
là.
On part sur des séjours de 3 mois à 12 mois.
Ouais.
Et il y a aussi une personne référente, en fait, sur place, une personne qui est native ou qui vit dans le pays depuis très longtemps, qui va accueillir la personne, qui va l'aider à trouver son logement, qui va lui proposer des associations pour faire du bénévolat, qui va aussi... l'idée, c'est de lui proposer quelque chose qui change d'une expérience touristique classique. Oui. L'idée, c'est de vivre quelque chose qui va enrichir le salarié.
Ça fonctionne dans combien de pays aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui, justement, parce qu'il faut adresser un peu chaque pays en particulier, qu'il y a des problématiques de visa qui se posent et des problématiques de durée d'autorisation, on adresse une dizaine de pays. On a des pays qui sont sur le même fuseau horaire que la France pour faciliter les choses.
Donc ça va être l'Europe plutôt ?
Non, ça c'est le Cap-Vert, le Maroc, l'Afrique du Sud et puis l'île Maurice.
Parce qu'il y a un enjeu de simplicité justement.
Exactement, c'est pour permettre en fait de travailler de façon tout à fait synchrone avec son employeur. Et puis on a des destinations un peu plus lointaines, l'Asie, Bali, la Thaïlande, déjà. Et puis de l'autre côté le Mexique, le Cap-Vert.
Comment est-ce que vous vous rémunérez? C'est quoi votre modèle économique? Qui c'est qui vous paye?
Alors on demande une petite contribution au salarié qui part, puisque c'est son projet personnel, donc on estime que c'est une bonne chose qu'il y contribue. En général, c'est 5 à 10% de son salaire net. Et puis le reste du modèle économique est financé par une différence en fait entre les charges, certaines charges sociales qui disparaissent en France et d'autres qui apparaissent dans les pays, dans le pays d'accueil. Donc c'est ce qui permet de nous financer.
Ouais, c'est la crise sanitaire, c'est le Covid qui a dynamisé votre business. Alors, cette envie de avoir plus de souplesse dans le travail.
Ça, c'est sûr que le fait de rendre le télétravail de plus en plus possible pour un grand nombre de salariés a aidé au e-working. Mmh. L'idée est quand même née du fondateur qui avait pratiqué le télétravail avec ses équipes bien avant la pandémie et qui avait vécu longuement à l'étranger et qui a cherché à offrir à ses collaborateurs une expérience intéressante, valorisante, un vrai parcours collaborateur intéressant.
Et ça a fonctionné.
Et ça a fonctionné.
Donc
en
ça s'est développé.
Cas, on espère.
Ouais. Oui. Combien d'entreprises vous accompagnez aujourd'hui?
Aujourd'hui, on a une trentaine d'entreprises qui nous ont fait confiance. On a des entreprises qui nous ont même confié plusieurs salariés. Donc, on a une quarantaine de personnes qui sont parties à ce jour. On est neuf encore sur le marché. On est une petite entreprise.
Ça veut dire que ça apporte quelque chose dans la qualité de vie au travail. Vous avez des retours positifs là de vos clients?
Oui, on a des retours positifs. Vous parliez dans les interviews précédentes de quête de sens, de pouvoir se ressourcer. Ouais. Nous, on est convaincus chez Oliworking, parce qu'on a tous vécu longuement à l'international, que de pouvoir s'immerger dans une autre culture, ça fait beaucoup de bien et ça apprend beaucoup.
Ma dernière question, ça va être plutôt des jeunes, des trentenaires ou même les plus âgés sont convaincus?
Tout le monde est convaincu. Oui. C'est plus facile peut-être aujourd'hui pour des trentenaires, mais on a l'exemple de quelques personnes
mais
qui partent en famille.
Mais c'est quoi l'âge moyen de ceux qui
partent? C'est 30 ans.
Ah, c'est quand même 30 ans.
Oui, c'est l'âge moyen, c'est 30 ans. Ouais,
voilà.
Tout à
fait. En tout cas, si nos auditeurs, chefs d'entreprise, sont intéressés ou salariés, veulent soumettre l'idée aussi à leur patron. C'était l'idée de la semaine dans Happy Boulot. Merci beaucoup, Céline Préfol.
Je vous remercie.
Directrice des opérations de l'e-working. C'est tout pour aujourd'hui. Vous retrouvez cette émission en replay, en podcast. Merci d'avoir passé toute cette saison en notre compagnie. Happy Boulot revient à la rentrée avec plein de nouvelles solutions pour être plus heureux au boulot.
BFM Business, Happy Boulot, le mag. L'émission qui vous sort de votre boîte.